J'aimerais partager autour d'un verset qu'on va retrouver dans le dernier livre de la Bible, qui s'appelle le livre de l'Apocalypse. Maintenant, c'est vrai que le mot Apocalypse, ça semble épouvantable. Dans la Bible anglaise, ce dernier livre porte le nom Révélation. C'est peut-être mieux, parce qu'ici, nous avons vraiment la révélation des derniers temps, la révélation du retour de Jésus, la révélation du jugement final et du ciel. C'est un livre étonnant, parfois difficile à comprendre, mais alors avec certains passages extraordinaires. Un seul verset qui se trouve dans Apocalypse chapitre 3, verset 8, je crois qu'on va pouvoir le projeter à l'écran. C'est Jésus qui parle à une église. Il dit ceci: je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Jésus parle à cette église qui est une église qui lui a été fidèle. Il lui a dit: parce que vous avez été fidèle, je mets devant vous une porte qui s'ouvre et elle ne se fermera pas. Et si vous continuez à lire au-delà du verset 8, vous allez découvrir que cette porte qui s'est ouverte, ce sont de véritables opposants, d'adversaires de l'église qui vont d'une façon spectaculaire se convertir à Christ et changer carrément de camp. Ça, c'était la porte dont Jésus parlait. J'aimerais vous dire que pour toute église qui lui est fidèle, Jésus va leur ouvrir des portes. Des portes qui s'ouvrent. Des portes, ça sert vraiment à quelque chose d'important pour nous, des portes. Avec des portes, on rentre. Avec des portes, on sort. J'ai vu une photo une fois d'une maison neuve. Personne n'avait encore habité dans cette maison. À l'intérieur, il y avait tous les conforts. Il y avait chambre de luxe avec suite parentale, cuisine équipée, électroménager dernier cri. Au salon, il y avait télé, écran géant avec barre de son puissant. Il y avait dans le salon et la salle à manger des meubles magnifiques, des beaux meubles. Mais cette maison avait un problème, c'est qu'elle avait été construite sans porte. Ça voulait dire que l'acheteur de la maison avait acheté quelque chose qu'il ne pouvait pas utiliser. Il n'avait pas accès à tout ce que cette maison proposé à l'intérieur. Il ne pouvait pas entrer. Mais imaginez un peu que tu te retrouves à l'intérieur de cette maison qui n'a pas de porte. Alors là, vous ne pouvez pas sortir. C'est une prison, une belle prison, mais une prison quand même. Donc une porte est indispensable pour entrer et sortir. Et Dieu nous ouvre des portes. Dans le Nouveau Testament de la Bible, il y a plusieurs portes que Dieu va ouvrir. La porte la plus importante qu'il va ouvrir, c'est en fait la porte de la tombe de Jésus. Ça tombe bien, n'est-ce pas? C'est le jour de Pâques. Ah, c'est vrai, les femmes, quand le jour après le sabbat, les femmes sont allées à la tombe pour parfumer le corps de Jésus. Et il se posait la question en allant, en disant: mais comment on va rouler la pierre qu'on avait placée sur l'ouverture de la tombe? Comment est-ce qu'on va la déplacer pour pouvoir entrer, pour pouvoir parfumer le corps de Jésus? Et en arrivant à la tombe, il découvre qu'un ange était passé par là et que maintenant la pierre était roulée. Maintenant la tombe était ouverte. Dieu a ouvert la tombe de Jésus mais pas pour qu'il sorte. Jésus n'avait pas besoin qu'on lui roule la pierre. Pourquoi? Parce que dans son état ressuscité, il traversait les murs. Imaginez Jésus ressuscité, incapable de sortir de la tombe. En train de dire, mais je suis ressuscité maintenant, comment je vais sortir? Au secours! Il y a quelqu'un? Venez m'ouvrir! S'il te plaît, je suis vivant! Non mais, Jésus n'était pas coincé dans la tombe après sa résurrection. Il est ressuscité, il est passé à travers le mur. Alors, pourquoi est-ce important pour Dieu d'avoir roulé la pierre? Eh bien, ce n'était pas pour que Jésus sorte, mais c'était pour que les disciples entrent, pour qu'ils voient que la tombe était vide, parce qu'ils allaient être appelés les témoins de la tombe vide. Ce n'est pas pour Jésus sortir que la pierre a été roulée, mais c'était pour que les disciples voient eux-mêmes que là où il a été posé, sans vie, que maintenant, il n'est plus là. Alléluia. Donc, Dieu a ouvert cette première porte. Après cela, toutes les autres portes du Nouveau Testament sont en train d'ouvrir. La première se trouve dans Apocalypse 4, chapitre 4, verset 1. Je vais vous le lire tout simplement. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. »« Monte ici !» a dit la voix. « Le ciel est ouvert, tu peux monter maintenant !» Et c'est peut-être une parole pour quelqu'un ce matin, de comprendre que le ciel n'est pas fermé pour toi, mais il a été ouvert suite à la tombe vide de Jésus. Le ciel s'est ouvert, et une voix qui s'adresse à toi, aujourd'hui, monte ici et je te ferai voir les choses qui vont encore arriver. Le ciel est maintenant ouvert pour ceux et celles qui veulent monter. Le ciel n'est pas comme une église à Baccarat. Vous connaissez Baccarat? Baccarat, c'est une jolie ville, surtout connue pour son cristal. Et j'étais là l'année dernière avec nos amis là-bas. Et puis, avec notre ami, le pasteur Eric, il nous a fait un peu visiter Baccarat et il s'est arrêté devant une église. Il a dit, tu vois cette belle église-là? J'ai dit, oui. Eh bien, il y a un producteur de cristal, un fabricant d'objets en cristal. Il a créé un lustre, un magnifique lustre qu'il a donné à cette église. Et ils l'ont installé. C'est quelque chose qui vaut très cher. Et depuis qu'ils l'ont installé, le curé, il a fermé son église. Il ne voulait pas qu'on lui prenne son lustre. Eh bien, je peux vous assurer, chers amis, Dieu, il a un joli lustre au ciel. Mais lui, il n'a pas peur qu'on vienne le prendre. Le ciel est ouvert pour que tu puisses entrer et l'admirer. Ah oui, les portes. Les portes qui vont s'ouvrir dans le Nouveau Testament. Après Apocalypse 4, le ciel s'ouvre. On découvre que les expériences des premiers apôtres, c'est la prison. Ils ont connu la prison. Dans Actes 5, le souverain sacrificateur, il met tous les apôtres en prison. Et dans la nuit, un ange apparaît et vient leur ouvrir la porte en leur disant, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Il a dit, « Il ne faut pas laisser des adversaires, il ne faut pas laisser une prison vous empêcher de prêcher l'Évangile. Allez, je vous libère. » C'est important pour nous. Aujourd'hui, c'est important pour nous dans un pays où on sent quand même qu'ils ne sont pas très à l'aise avec la foi chrétienne maintenant. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Vous savez, il fut un temps où tout le monde était chrétien en France. Maintenant, ça devient de plus en plus exigeant d'être chrétien. Il faut plus de courage aujourd'hui d'être chrétien, d'avoir des valeurs, d'être convaincu, d'être prêt à prendre position en fonction de la foi. Mais ici, Dieu envoie un ange pour nous faire sortir de prison, pour nous faire sortir par rapport à des pressions que nous pouvons connaître. Actes chapitre 12 maintenant. Pierre est jeté en prison par le roi Hérode. Il doit passer plusieurs jours en tant que prisonnier. Un jour, il doit paraître devant Hérode, mais la nuit avant de devoir paraître devant Hérode, un ange est dispatché par Dieu pour aller le faire sortir de la prison. Et le texte, il me fait rire. Parce que Pierre dort et dort bien dans une prison. Moi, je dis, comment est-ce qu'on peut dormir, bien dormir dans une prison? Et Pierre, ben, lui, il dort bien. Tu vois. Et il est dit que l'ange, il doit réveiller Pierre et l'habiller. Pierre, mets ton pantalon. Habille-toi, Pierre. On sort. Et alors, il le sort. Et Pierre, il pense qu'il rêve. C'est étonnant, les rêves. Hein? C'est étonnant. Tu es sûr que c'est vrai. Et tout d'un coup, tu te réveilles et tu es dans ton lit. Et tu as rêvé. C'est le contraire pour Pierre. Il pense qu'il rêve. Il ne rêve pas. C'est une réalité. Et il est dit ceci. Alors, je cite le verset 10 dans Acte 12. « Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer. » Imaginez ça, la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Une porte de fer, c'est comme les centres commerciaux. Vous voyez, tu t'approches et... C'est extraordinaire. Moi, j'aime les portes de centres commerciaux. Moi, je les aime. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne font pas de distinction. Il n'y a pas de racisme avec une porte du centre commercial. Il n'y a pas de sexisme. Il n'y a pas d'agisme. Peu importe qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu vis, ce que tu penses, ce que tu crois, peu importe, tu passes devant une porte, un centre commercial, la porte s'ouvre pour toi. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour. Moi, j'aime surtout les portes en Norvège. Parce que partout dans notre pays, les portes s'ouvrent comme ça. Mais en Norvège, les portes s'ouvrent comme ça. Et quand je m'approche d'une porte, merci. Merci, merci. Et là, c'est Pierre qui arrive. Il dit, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Je suis encore à moitié endormi. Et puis là, je suis là devant une porte de fer. Et la porte de fer, elle fait comme ça. Alors, il se retrouve dans la rue. Il dit, qu'est-ce que je fais là? Bon, ben écoute, je vais devoir aller chercher mes amis, les chrétiens, là. Alors, il va vers une maison où il sait qu'il y a des chrétiens. Et les chrétiens sont là en train de prier. Maintenant, Pierre, il va faire une tentative d'ouvrir une porte. Tu vois? Et il frappe à la porte, elle ne s'ouvre pas. Il frappe à la porte, il crie. Finalement, on vient l'ouvrir. Et quand il voit que c'est lui, il ferme la porte encore une fois. Et Pierre doit frapper encore une fois. Je dis, écoute, franchement, quand j'ai lu ça, la facilité que Dieu a eue d'ouvrir une porte de fer et la difficulté que Pierre a eue d'ouvrir une porte d'amis, oh, moi j'ai compris que Dieu ouvre des portes beaucoup mieux que moi et toi. Les portes que Dieu ouvre. Acte 16, c'est pas fini. Paul et Silas en prison, dans les fers, sont en train de louer Dieu. Verset 26, tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers prisonniers furent rompus. Quand je lis ça, j'ai presque l'impression que Dieu aime nous mettre en prison pour montrer qu'il est capable d'ouvrir des portes. Tu t'amuses avec nous ou quoi? Mais Paul, il ne sort pas de la prison. Il a la porte pour sortir, il ne la prend pas. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il y avait une autre porte qui s'ouvrait avec la famille du geôlier. Il dit, moi, je préfère rester ici parce que là, il y a une autre porte qui m'intéresse beaucoup plus. C'est celle de cette famille-là du geôlier. Avec ce qui se passe. En 2002, ça fait 22 ans maintenant, j'ai fêté 25 ans de ministère.
Eh oui.
Et j'ai voulu créer un événement qui me permettait d'inviter des officiels. J'étais pasteur à l'époque à Paris, dans le 5e arrondissement. Et le dimanche des 25 ans, donc on a organisé, j'ai envoyé mes invitations sur du joli papier, sans demander une réponse. Je voulais simplement jeter ça comme ça pour voir s'il y avait des touches. Et voilà que le dimanche est arrivé, notre grand jour, et le culte spécial a commencé. Quand arrive seul dans ce culte, dans le 5e arrondissement, Monsieur Jean Tiberi, est-ce que ce nom vous est connu? À l'époque, il était le maire du 5e arrondissement, ancien maire de Paris, et personnage politique très influent sur le plan national, Jean Tiberi. Il arrive tout seul, sans chef de cabinet, sans secrétaire. Ce n'était pas une période électorale. Il avait reçu mon invitation et il est venu à pied. Il y avait une jeune femme dans notre église, une jeune fille, elle priait pour les autorités. Elle arrive, elle s'installe au culte, et qui s'assied à côté d'elle? Jean Tiberi. Il est resté une heure et demie. Il est parti juste avant la fin, parce que c'est mieux comme ça pour les gens qui sont connus. Ah, j'étais content. C'était la grosse surprise. Peu de temps après, pour des raisons de vigie pirate, la police m'a viré de la rue avec mon tableau d'évangélisation de l'endroit où j'avais été pendant des années. Tout d'un coup, je suis viré. Et je dirais sans ménagement. Je n'étais pas content. C'est le moins qu'on puisse dire. Je suis quelqu'un de gentil, moi. Mais quand je ne suis pas content, je suis moins gentil. Et donc, j'ai dit, OK, eh ben, je vais écrire à M. Tiberi, mon ami. Alors, j'ai fait un courrier en demandant qu'il me reçoive. Et sa secrétaire m'a appelé. Elle a dit, M. Tiberi peut vous recevoir. Et on a fixé un jour, une heure. Je suis allé là, je suis rentré dans son bureau, dans ses appartements. J'avais l'impression de rentrer dans le palais de Versailles. Il y avait des tableaux partout, il y avait de l'or, il y avait... 5e arrondissement, Paris, attention. Hein. En tout cas, je lui ai expliqué mon problème avec des policiers du 5e arrondissement. Et je lui ai montré quelques photos de mon tableau et de comment j'animais. Puis je rassemblais des gens et je leur parlais. Et j'expliquais, j'ai montré les photos. Et puis j'ai dit, écoutez, monsieur Tiberi, j'aurais vraiment besoin de votre soutien. Est-ce que je peux compter dessus? Et il m'a dit, oui, vous pouvez compter sur mon soutien. Merci. Est-ce que je peux l'avoir par écrit, s'il vous plaît? Alors, il m'a dit, oui, ma secrétaire, elle vous enverrait un courrier. Dans la semaine qui a suivi, j'ai reçu un courrier signé Jean Tiberi, magnifique courrier, de soutien pour ce que je faisais dans la rue avec mon tableau. Bien. Le vendredi suivant, je retourne à l'angle de boulevard Saint-Germain et boulevard Saint-Michel, je m'installe et je commence. Ça n'a pas raté, la police a débarqué, le policier arrive, il dit « Monsieur, dégagez !» Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit « Monsieur, je travaille aujourd'hui avec l'accord et le soutien du magistrat de la ville, Monsieur Tibéri. » Je lui ai présenté le courrier. Il a lu ça, il a vu l'entête, il a vu la signature, il a replié le courrier, il me l'a rendu, et il m'a dit, c'est pas une autorisation ça, dégagez. Alors là, j'étais vraiment pas content. J'aime pas me laisser faire, vous voyez. Alors, je suis retourné à mon bureau, j'ai écrit à M. Tibéri pour lui expliquer ce que la police pensait de son courrier. Dans les jours qui ont suivi, je reçois un appel téléphonique du commissaire divisionnaire du 5e arrondissement de Paris. Monsieur le pasteur, nous allons trouver une solution pour vous. Venez nous voir. Il ne fallait pas monter si haut. Et moi, je leur ai dit, monsieur, si vous avez répondu à mes courriers, si vous m'avez montré un peu de respect en tant que pasteur, eh bien, je ne serais pas monté plus haut. Mais je l'ai fait parce que vous m'avez obligé. Monsieur le pasteur, quand est-ce que vous pouvez venir nous voir? Dites-moi votre jour, je viendrai. Quand je me suis présenté au commissariat du 5e, j'ai été reçu par deux hauts gradés en tenue cérémoniale. Grande tenue. Et ils m'ont dit, monsieur le pasteur, mais choisissez l'endroit qui vous convient. Et vous pouvez même commencer cet après-midi, si vous voulez. C'est ce qu'on dit. Alors j'ai répondu, j'avais préparé mon coup. J'ai répondu, je voudrais la place Jussieu devant la fac, s'il vous plaît. Et je le voudrais par écrit. Mais monsieur le pasteur, aucun problème, vous aurez ça dans la semaine. Merci beaucoup. Le vendredi suivant, je m'installe place Jussieu. Il y a la police qui fait une ronde. Ils n'ont pas arrêté. J'étais maintenant marqué. Je n'ai jamais plus eu de problème avec la police du 5e arrondissement. Dieu m'a ouvert une porte. Une porte de sortie et une porte d'entrée. Et le nom de cette porte, c'était Jean Tibéri. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu nous ouvre des portes, chers amis. Des portes que l'homme ne peut pas fermer, même s'il essaye. Pierre et les apôtres, ils étaient convaincus que l'évangile et le salut étaient pour les chrétiens, pour les juifs uniquement. Que la porte de la foi et du salut était fermée pour tous les non-juifs. Ils étaient convaincus de ça. C'est l'apôtre Paul et Barnabas qui ont fait la découverte que finalement, il y a des non-juifs qui se convertissent. Dans Actes 14, verset 27, il est dit ceci, « Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. » Il leur a dit, même les Australiens se convertissent. Même les Français se convertissent. Alléluia. Paul a compris l'importance de la porte. La porte. Paul disait, il me faut la porte. Je ne peux pas entrer si je n'ai pas la porte. Il a prié, il a demandé la prière. Il a écrit aux Colossiens, priez en même temps pour moi, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. On peut prier, toi tu peux prier pour une porte. pour toi. Tu peux prier pour une porte pour ton église, pour ta famille. Dieu peut t'ouvrir une porte. Une porte que toi-même, tu ne peux pas ouvrir. Une porte que d'autres ne peuvent pas ouvrir pour toi. Mais Dieu peut le faire. Et ça t'ouvre à des nouvelles perspectives que tu ne peux pas même imaginer aujourd'hui. C'est l'aventure de vivre avec Dieu. C'est l'aventure de servir Dieu et de travailler avec lui et pas pour lui. Mais quand ce n'est pas Dieu, quand ce n'est pas Dieu, ce n'est pas beau. J'ai entendu un jeune homme interviewé devant plusieurs centaines de personnes lors d'une réunion. Et on lui a posé la question, quelle était sa vision, et il nous a expliqué, mais avec en détail, combien il allait monter une église, et il allait aller dans un gym, et puis s'inscrire, et se faire des amis avec ceux qui sont là du gym, et puis créer un réseau d'amis, et puis témoigner, les inviter tous au petit déjeuner à la maison le dimanche matin, et comme ça son église allait être créée, et de là, eh bien, il allait créer d'autres églises, avec d'autres gyms, et puis ça allait faire boule de neige, et puis ça allait grandir d'une façon exponentielle. Wouh ! Sauf que personne n'est venu à ce petit déjeuner. Sa vision était du vent. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui a pas ouvert une porte. Il a conçu tout ça dans sa tête. Mais Dieu n'a pas ouvert cette porte. Et c'est tout le problème avec notre motivation. On a tellement envie que Dieu fasse ci, que nous allons utiliser toute notre force spirituelle pour forcer une ouverture. Tu sais, moi, je veux aller dans le jardin derrière. Ici, il y a un mur, mais Dieu va ouvrir une porte. Et alors, je déclare, je prophétise, je prononce, je lis, j'ouvre, je fais tout ce que je sais faire. Vous voyez la porte, vous? J'ai perdu mon temps parce qu'il n'y a pas Dieu. Et Saint-Esprit, ça, tu vas aller dans le jardin? Oui? La porte, elle est là. Et non, la porte, faut que la porte soit là. Non. Ça, c'est ton idée. Dieu n'a jamais voulu qu'une porte s'ouvre là. C'est toi qui le voulais. Mais non, regarde un peu autour de toi. Et passe là où tu peux passer. Parce que Dieu a ouvert cette porte. Paul avait besoin de porte. Il a dit ceci, il fonctionnait en fonction de la porte que Dieu lui ouvrait. Il a dit ceci aux Corinthiens, mais je resterai à Éphèse. Ce n'était pas dans ses plans de départ, mais il dit, mais je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et efficace s'est ouverte pour moi, et il y a beaucoup d'adversaires. Il dit, je reste là parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte. C'est là où je passe. Je ne vais pas commencer à me faire des idées. J'aimerais aller là, j'aimerais faire ci, j'aime faire ça. Où est-ce que la porte s'ouvre, cher ami? J'avais un homme qui s'est avancé, il se posait des questions. Il se posait des questions se présenter pour des élections, sur le plan national ou sur le plan de l'État. Et puis il luttait avec ça. Et il m'a demandé la prière, j'ai prié. Et quand j'ai prié, tout d'un coup, il y a une parole qui m'est venue dans la tête. Et puis j'ai prononcé une parole. J'ai dit, cette parole pour toi, écoute-la bien. J'ai dit, là où Dieu t'ouvre une porte, c'est là où tu passes. Tu ne pries pas, tu ne questionnes pas, tu n'essaies de pas comprendre. Quand la porte s'ouvre, tu passes et tu regardes ce qu'il y a de l'autre côté. Mais si la porte ne s'ouvre pas, ce n'est pas Dieu. Rappelle-toi de cette parole. Moi, j'aimerais vous rappeler de cette parole-là, ce matin. Si elle ne s'ouvre pas, ce n'est pas Dieu. Arrêtez de vous tourmenter et de vous questionner pourquoi. Si elle s'ouvre, c'est Dieu. Si elle ne s'ouvre pas, ce n'est pas Dieu. C'est facile, ça. Vous ne trouvez pas que c'est facile? Agissez avec Dieu. Laissez-le prendre l'initiative. Laissez-le ouvrir les portes. Et quand il y en a une qui passe, eh bien, entrez dedans pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alléluia. Avant de terminer ce matin, j'aimerais vous dire, et vous allez le lire dans mon livre si vous l'achetez. Mais si vous ne l'achetez pas, je vais vous le dire quand même. Comment nous avons commencé en France? Nous, des petits Australiens, j'étais pasteur pendant 6 ans en Australie. Dieu nous a parlé, je ne rentre pas dans le détail, il nous a parlé qu'il n'y avait pas beaucoup de pasteurs en France, il fallait venir en France. Voyez. Alors, je connaissais, j'avais de la famille ici dans le Nord, je viens d'une famille qui vient de Roubaix. Et donc, j'avais de la famille ici, des oncles, des tantes, etc. Mais personne, aucun chrétien évangélique que je savais, je ne connaissais personne dans le monde évangélique. Je ne savais même pas comment commencer. Alors, j'ai écrit 100 de lettres à différents organismes dans le monde entier chrétien en demandant, cherchant des contacts quelque part. Je ne savais pas où j'allais avec ça. Des 100 courriers, j'ai eu une réponse. Une. C'était un pasteur ADD en Angleterre qui avait la responsabilité de la mission européenne pour les ADD d'Angleterre, de Grande-Bretagne. Il m'a répondu, si tu penses que c'est vraiment Dieu, eh bien viens nous rendre visite et on ouvrira la possibilité de la France. Parfait. Merci Seigneur. Ouf, ça commence bien. 1 sur 100, c'est pas beaucoup, hein? Alors, mais c'était la porte. On a pris nos billets à nos frais. On est allé en Angleterre, on a fait connaissance. Il y avait une petite équipe de pasteurs qui devait faire une mission à Nîmes, une mission d'enseignement, pas d'évangélisation, mais d'enseignement, renouvellement, etc. Ils ont dit, rejoignez-nous, venez avec nous. Merci, on vient. Donc, on était là vraiment spectateur. Les réunions duraient un week-end et puis plusieurs jours dans la semaine. Et donc, j'ai fait connaissance du pasteur de Nîmes. Et puis, on était bien accueillis. Moi, je ne demandais rien, je ne m'attendais pas. Mon français était approximatif. À l'époque, Denis, c'était 0. Maintenant, j'avais jamais prêché en français. Et le pasteur, il vient me voir. Il me dit, Vincent, écoute, jeudi après-midi, on a une petite réunion, gentille, tu vois. Il y a 15 grands-mères qui viennent. Est-ce que tu voudrais prêcher? Bah oui. Je dis jamais non. Ben oui. Alors je dis, mince. Maintenant, comment je vais faire? Bon, c'est des grands-mères, c'est bon. Hein. Ils vont. Non, mais je dis pas ça d'une façon péjorative. Je dis parce qu'ils vont m'aimer. Ils vont m'aimer, ils vont boire comme un petit-fils ou quelque chose comme ça, tu vois. Alors je suis bon là. Alors, tu sais, j'ai fait ce que je peux, j'ai préparé mon message, d'abord en anglais, ensuite traduit, puis après je me suis mis. Bon, j'arrive, je prêche, plus ou moins. Les grands-mères, elles étaient là, ils ont tous eu mal au cœur pour moi. Et puis, à la fin, le Seigneur me donne une parole de connaissance. Toi. Alors, j'ai dit, il y a quelqu'un ici qui a un cœur fatigué, qui a des problèmes sur le plan du cœur. Alors, je me suis dit, 15 grands-mères, il doit en avoir quand même une. C'est Vincent, c'est pas un niveau de révélation très, très poussé, mais bon, je fais ce que je peux, hein, tu sais, on utilise ce qu'on a. Et alors, j'ai lancé ça, et puis j'ai attendu, personne n'a bougé, tu vois, même pas une. Quand tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se lève et qui s'avance, c'est le pasteur. J'ai dit, vous avez des problèmes cardiaques? Il dit, ouais, je dois aller me faire opérer cœur ouvert dans les jours qui viennent. Ah, eh ben prions. Hein? Quand on ne sait plus quoi faire, on prie. Alors j'ai prié tout simplement pour lui. Le lendemain, on a pris la route. Les Anglais sont retournés en Angleterre. Nous, on est remontés sur Paris. Je ne connaissais personne à Paris. J'avais juste le nom d'un pasteur, un numéro de téléphone, c'est tout. On a pris une chambre à l'hôtel, porte Vincennes. Et quand on était là, le téléphone a sonné. C'était le pasteur de Nîmes. Il me dit, Vincent, écoute, merci d'avoir prié pour moi. J'ai été touché. Mais les médecins, ils ont dit que j'ai besoin quand même de cette intervention. Je vais être hors service 4 mois. Je ne connais personne en France à qui je voudrais faire confiance et de remettre l'Assemblée. Est-ce que tu peux revenir tout de suite et me remplacer pendant 4 mois, une église de 400 membres? J'ai dit, j'ai une église en Australie. Je ne peux pas les abandonner comme ça. J'ai répondu, écoute, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il m'a dit, je comprends. Eh bien, dans ce cas-là, eh bien, tu reviens l'année prochaine et avec toi, on fera une mission d'évangélisation sur 9 jours. C'était en 1984. C'était la plateforme sur laquelle toutes nos années en France a été bâtie. On était sur Paris. J'ai appelé le nom du pasteur en disant, j'ai reçu votre nom. Je m'appelle Vincent Esterman. On vient d'arriver à Paris. Et il m'a invité à une pastorale le lendemain. Une pastorale Paris. Et je suis arrivé là, à l'heure qu'il fallait. Et le pasteur, il se présente, je me présente. Il me dit, frère, parce qu'il parlait comme ça, frère, j'aimerais vous demander de prendre la parole ce matin. Pardon ? Oui, non, je vous demande de prendre la parole, je vous demande de prêcher. Ah ben, pour le préavis, bravo. Hein, Alors, j'ai simplement parlé du Saint-Esprit. On est retourné à notre chambre à l'hôtel. Le téléphone a sonné et a sonné et a sonné. Et j'ai prêché dans une église différente chaque jour pendant 8 jours. Suite à ça, on était lancés. Dieu nous avait ouvert une porte. Ce même Dieu est celui qui va vous ouvrir une porte. Je termine avec une dernière porte qui va s'ouvrir. Elle se trouve dans Apocalypse de nouveau, chapitre 3. Mais cette fois-ci, Jésus ne peut pas l'ouvrir. Il doit parler à travers la porte. Il doit parler à toi, à moi, à travers la porte. Et il dit ceci, voici je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvrira la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est une porte qui a une poignée seulement d'un côté, de votre côté. Jésus peut frapper. Mais vous êtes la seule personne qui a le pouvoir de lui ouvrir cette porte pour votre vie, la porte de votre cœur, la porte pour les années encore que vous avez sur cette terre et pour l'éternité. Cette porte-là, c'est vous qui l'ouvrez. La voix vient du ciel. Monte ici, la porte est ouverte. On vient frapper à ta porte, la porte de ton cœur. Ouvre-moi la porte et j'entrerai avec toi et je me mettrai à table et à table nous souperons ensemble. Je l'ai fait moi-même, si seulement je pouvais le faire pour quelqu'un d'autre, je le ferais. Mais je ne peux pas. Tu es la seule personne qui peut ouvrir cette porte de l'intérieur. Est-ce que tu vas le faire aujourd'hui? Étienne, est-ce que tu pourrais venir, s'il te plaît? La porte qui va décider ton avenir, elle est devant toi. Et si tu entends ton cœur, et si tu oses lui ouvrir cette porte aujourd'hui, tu ne peux pas imaginer ce que c'est vivre avec Jésus qui est à ta table et qui est en train de souper avec toi, en communion, en amitié. Je l'ai fait moi à l'âge de 15 ans, je ne comprenais pas du tout ce que ça allait conduire dans ma vie. Je n'ai jamais regretté un jour d'avoir fait cela. Et toi? N'écoute pas tes pensées parce que les pensées ne vont pas t'aider. C'est là où les doutes arrivent, c'est là où les craintes arrivent, c'est là où la méfiance, oui, mais tu ne comprends pas tout, et puis est-ce que tu sais dans quoi tu te jettes, et puis tu ne maîtrises pas, et ce n'est pas ton genre de choses. N'écoute pas ça. dit, ne te dis pas, je ne suis pas prêt. Tu ne te sens jamais prêt. On ne se sent jamais prêt. Un jour, arrive jamais qu'on ait dit, je suis prêt. Bien sûr, on gère nos insécurités, on gère nos doutes, on gère l'inconnu. Mais si tu écoutes ton cœur, si tu écoutes cette petite voix à l'intérieur, tu dis, mais non, c'est ta chance. Saisis-la. N'écoute pas ta tête. Écoute celui qui t'aime et qui te parle, qui frappe au cœur.